Hocham Daoud, merci pour cet entretien. Donc, Hocham est ingénieur de recherche au laboratoire d'anthropologie des institutions et organisations sociales au CNRS. J'aimerais commencer par une question sur l'influence de la littérature de Daesh au Proche et au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé, un bilan des principaux livres qui sont lus par les jeunes de Daesh au Proche et au Moyen-Orient?
C'est un sujet qui n'est pas assez connu. On parle de Daesh en tant que mouvement avec des pratiques barbares, difficiles à supporter, à regarder, à visualiser. Et puis on parle maintenant, dernièrement, depuis un an, sur certains ouvrages majeurs. On pense en particulier à un livre qui s'appelle « Idarat al-Tawahash » en arabe, donc la traduction française qui n'était pas très propre. On l'a traduit par « La gestion de la barbarie ». Probablement la traduction anglaise est meilleure. Si je le retraduis le titre, ce sera « La gestion de la sauvagerie ». C'est une idée un peu plus élaborée. Il s'agit d'un livre de 2004-2005, après l'expérience d'Afghanistan, après l'invasion de l'Irak, après la, je dirais, presque mise à terre de la structure de Qaïda, de Taliban en Afghanistan et le pouvoir de Saddam Hussein, même s'il n'y a pas de rapport là-dedans. Donc, certains djihadistes, ils ont fait un temps d'arrêt, de réflexion. Il s'agit d'une personne, d'un groupe. Probablement, il s'agit d'une personne d'origine égyptienne. Il l'a signé par un pseudonyme, s'appelle Abu Bakr Naji. Donc, il a donné ce livre. Le livre a eu un retentissement absolument phénoménal parmi le milieu qui s'intéresse aux questions de djihadisme, mais pas par le grand public. De 2005 ou 2006, je crois, il était traduit en anglais, très bonne traduction, par un de maîtres à Harvard de la littérature arabe, en français à partir de 2007. Bref, c'est une littérature politique axée sur la gestion d'un espace avec une résonance proche-orientale qui, je dirais, qui coupe avec la tradition djihadiste globale déterritorialisée. On a découvert après que dans la bibliothèque de Daesh, il y a d'autres types d'ouvrages. Comme quoi, il y a des ouvrages qui essayent de canoniser, si je peux dire, un peu l'idée de djihad. Après l'expérience d'Afghanistan, un livre majeur s'appelle Fiqh al-Jihad, ça veut dire le fiqh, ça veut dire la jurisprudence du djihad. Il traite la relation assez difficile, conflictuelle, des fois même qui s'espace par des conflits absolument interminables de manière la plus brutale, au point que eux-mêmes, les intéressés, les acteurs, ils l'ont appelé le fiqh de sang. C'est un ouvrage majeur, parce qu'il s'agit de formation des jeunes djihadistes, à partir de Peshawar, de Pakistan, d'Afghanistan. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, parce que par cette école, ce type de formation a beaucoup de djihadistes, ils ont passé et atterri en Irak et en Syrie plus tard. Pas le moindre, Abu Mus'ab al-Zarqawi, il était un des adeptes de cet ouvrage. Puis, il y a d'autres ouvrages qui arrivent plus tard. C'est l'idée un peu, je dirais, le métamorphose que je disais, qu'est-ce que c'est la bibliothèque de Daesh. En fait, il faut l'hierarchiser. Le discours de Daesh s'adresse à plusieurs catégories de gens. La première catégorie, ce sont entre eux-mêmes, les responsables de Daesh, des gens qui se trouvent en charge de gérer cette organisation. Donc, ils ont certains recours de textes, de références fondamentales, qui insiste davantage sur le côté un peu dur, le côté belliqueux de l'islam, le côté de confrontation. Et on trouve des surates, etc., 30 ou 40 dans le Coran pour légitimer ce type de posture et position. Donc, il y a une littérature depuis des siècles jusqu'à il y a récemment. Ça constitue le premier corpus de Daesh. Deuxième corpus s'adresse à l'ère combattant. On reçoit des gens qui arrivent un peu de partout du monde. Deux fois, ils n'ont pas le même niveau de formation. Ce sont des gens qui arrivent avec certaines idées. Deux fois, poussés par leur société. Deux fois, ils sont en perdition. Deux fois, ils sont à la recherche de sens. Deux fois parce qu'ils veulent réaliser un certain rêve messianique. Deux fois, ils adhèrent à des thèses djihadistes et d'autres. Deux fois, on trouve beaucoup, beaucoup de catégories de gens sur la terre de djihad. Et à ce moment-là, il y a certains types de pamphlets, d'ouvrages simplifiés qui s'adressent à ces gens-là. Et puis, nous avons troisième type de littérature, c'est des littératures qui s'adressent à la population, je dirais ordinaire dans la rue. Daesh, jusqu'à il y a quelques mois, administrait 6 à 7 millions de personnes. Donc 6 à 7 millions de personnes quand ils sortent dans une ville comme Mosul, qui est dans la province de Ninive, au nord de l'Irak, ou Araka, en Syrie. Et qu'est-ce qu'il y a dans les librairies sous contrôle de Daesh? Qu'est-ce qu'on trouve? La plupart du temps, des livres religieux. Mais de qui? Le fondateur de Wahhabisme, Mohammed bin Abdel Wahhab. Le grand islamologue qu'on les présente toujours la plus dure, Ibn Taymiyyah, ça a été le 13e, 14e siècle. Un peu plus tard, on prend une autre référence, un autre nom, de ça qu'il appelle de Shawkani. C'était une référence religieuse très importante, 19e, 18e, 19e siècle, au Yémen. L'intérêt, parce qu'il était lui Zaydi, donc dit branche chiite, qui est devenu sunnite. Donc, même la référence historique, ici, on l'utilise dans la passation d'une mouvance à l'autre. Puis après, il y a de noms très connus comme Al-Albani, etc. Et puis Ibn al-Uthaymin, un saoudien, un peu moins Ibn Baz. Et curieusement, on voit peu de littérature concernant des gens comme dirigeants de Qaïda aujourd'hui, Abu al-Zawahiri par exemple. Même Osama Ben Laden, il y a très peu de littérature de lui, de ses écrits, même s'il n'a pas écrit grand-chose. Voilà, c'est un choix de Daesh qui est basé au niveau général, sur certaines littératures, de islamiser la société. D'autres littératures qui s'adressent aux combattants pour remonter leur morale et confronter ce qu'il faut absolument à éliminer, en l'occurrence les mécréants, ceux qu'il appelle associationnistes, ça veut dire qu'il associe à le Dieu unique Allah, et puis aux croisés. Donc c'est hiérarchisé. Mais la vision de Daesh, c'est qu'on ignore totalement. Parmi les mécréants, il y a trois catégories. Ceux qui sont devenus mécréants, ceux avec qui on peut le convaincre. Troisième catégorie, c'est qu'on le considère total, et il n'y a plus rien à faire parce qu'ils sont nés mécréants, ils doivent mourir en mécréant. Et dans cette troisième catégorie, on classe la croisée et la chiite. Ce qui rend la guerre de Daesh beaucoup plus âpre dans cette région-là, justifié par ce type de littérature qu'on découvre aujourd'hui l'ampleur. Au-delà, Daesh n'a pas produit énormément de littérature. C'est que l'autre paradoxe, que malgré le discours que nous avons sur Daesh, en fait, c'est une organisation pauvre en termes de production littéraire, en termes de production de savoir religieuse. Elle est beaucoup plus pauvre que Al-Qaïda. Elle-même, qu'elle était à l'échelle globale, il y avait beaucoup plus d'adhésion. Donc, nous avons ici quelque chose d'un appauvrissement en termes de production littéraire, mais endoctrinement, et puis cheminement en termes de catégorie d'échelle. Quatrième chose, que j'ai oublié peut-être, Daesh a réussi quand même de faire des programmes pour l'école, pour des jeunes. Et sur cette question-là, nous avons maintenant des livres d'histoire, nous avons des livres de géographie, etc., qui sont faits par Daesh pour la jeune et la jeunesse de cette partie. Et ils commencent à enseigner depuis cette année scolaire, ils commencent à enseigner au niveau d'école. Il faut savoir que Daesh s'intéresse très peu à la génération entre 25 et 40, 50 et 60 ans. En revanche, il accorde une attention très, très, très poussée aux jeunes de 10 à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils considèrent c'est là où il faut miser, c'est là où il faut investir, c'est là où il faut recruter. C'est à partir de cette tranche de la population qu'on peut avoir de jeunes, de combattants la plus déterminée. Quand Al-Qaïda était en Irak entre 2003 et 2008-2009, l'essentiel d'Al-Qaïda, ça a été une organisation djihadiste, les dirigeants venant de l'extérieur, pour diriger des djihadistes en terre d'Irak, même si à la base il y avait beaucoup d'Irakiens. Le comportement des dirigeants djihadistes à ce moment-là, venant de l'étranger, ça a été une forme d'arrogance avec les chefs de tribu. Or, la légitimité tribale locale, c'est une culture locale, C'est le regard de la population tribale vis-à-vis de leur chef. C'est la capacité de ces chefs d'avoir accès au pouvoir régional et national. Si on arrive à brimer ce capital symbolique de chef, bien évidemment, on affaiblit son pouvoir, chose qu'il n'acceptera pas. Et il se met contre les djihadistes qui sont un peu des djihadistes, un peu, je dirais, globaux, sans tenir compte de la réalité locale. C'était le cas de Qaïda jusqu'à 2008-2009. Cette faille qui était utilisée par les Américains, ils ont fait ce qu'on appelle la Sahwa. La Sahwa, cette expérience de l'armée irakienne, on arme des hommes de tribu, on leur donne on leur livre d'aide, d'argent, il y a des dividendes, et ils s'alignent avec l'armée américaine. Et le pouvoir irakien contre Daesh, ce qui a réussi pour le déloger, pardon, contre Al-Qaïda, ce qui a réussi pour le déloger. Daesh, c'est une organisation beaucoup plus locale, territoriale, irakienne, et avec des conflits très clairs avec le pouvoir chiite en Irak et à Bagdad. Ils ont réussi très vite à fédérer les Irakiens sur cette base. Deuxièmement, ils ont trouvé parmi certains tribus qui étaient marginalisés, mis à l'écart, de l'aliéner sur leur position. Moyennant, ben écoutez, dès qu'on arrive à établir notre propre structure, État, etc., c'est vous êtes associé à prendre des décisions dans votre région. Trois, tous ces jeunes de cette tribu un peu, je dirais, petite et marginale, d'autant plus depuis 2003, encore plus minorés, mis à l'écart, leurs jeunes, avec leur origine tribale, leur marginalisation, et puis leur liberté de décision, prise de décision, se sont vite clivés, aliénés sur Daesh, entraînant leur tribu derrière eux, au moins une partie. Ce qui a créé cette chose qu'on appelle aujourd'hui certains tribus. En effet, dans la région ouest de l'Irak, autour de Mosul, certains, ils se trouvent de côté de Daesh, mais sont parmi des petites tribus qui étaient toujours écrasées, toujours malmenées, Et ce qui rend aussi un peu difficile, âpre, le conflit contre Daesh sur leur propre sol. Parce que c'est non seulement le conflit, ça devient dur parce que dû à la population locale, parce que le conflit s'emboîte. C'est l'État contre les subversifs. C'est de modérés contre les djihadistes. C'est les internationaux venant d'Europe, des États-Unis, etc. Je parle en termes d'État. Contre des djihadistes transnationaux qu'ils menacent l'ordre global. Et puis, des gens de tribus de tels contre les autres, qu'ils ont rentré en conflit par rapport au contrôle et la gestion de pouvoir local. Du coup, le conflit n'est pas si clair pour ceux qui ne le voient pas de près pour voir combien de types de contradictions se trouvent emboîtées l'une dans l'autre. Ce qui rend un peu la situation, je dirais même le combat contre Daesh, difficile.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en Irak, il y a un net recul de Daesh au sein de ses tribus? Et si oui, pour quelles raisons? Est-ce que ce pacte, finalement, implicite qui s'est créé face à des formes de domination multiples, est-ce que ce pacte se délite?
Il y a deux ou trois choses à dire pour répondre à votre question. La première chose, que Daesh recule. En un an, Daesh il a perdu presque 40 à 50% de son territoire. Depuis fin avril 2015, Daesh n'a pas gagné un seul mètre carré. En revanche, il a perdu énormément de villes, de bourgs, de petites villes, de régions, etc. Donc Daesh a perdu ce qu'on appelle la dynamique d'expansion. Est-ce réversible, définitive? L'avenir ne le dira. Tout ça dépend du rapport de force de Bagdad. Une bonne réponse politique, il peut encore mettre en difficulté Daesh. Parce que s'il y a une adhésion un peu massive de la part de la population sunnite en Irak, c'est pas parce qu'ils sont djihadistes d'origine, c'est parce qu'ils étaient humiliés, ils étaient malmenés, ils étaient éloignés, marginalisés, paupérisés. Tout cela doit être corrigé. Est-ce que Bagdad a le pouvoir et la capacité? L'avenir nous le dira. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la tribu, une structure tribale, c'est une structure pragmatique. On aime toujours avoir une petite porte de négociation, une porte d'échappement. Rarement on trouve une tribu qui accepte de se décapiter à la fin. Que leurs enfants, ils adhèrent à Daesh, que leurs enfants, ils partent, à ce moment-là, les chefs, ils vont dire, nouveaux, qu'ils arrivent, s'installent. Ben, écoutez, ce sont des enfants, ils étaient malmenés, égarés, marginalisés, humiliés, ils ont pris cela. Nous ne sommes pas d'accord. Mais nous sommes prêts de négocier qu'il n'y aura plus de retour ce type de subversion contre vous à partir de notre base tribale. Donc, on l'a vu depuis quelques mois, ce type de négociation qui se passe, c'est assez intelligent. Parce que quand vous savez, quand vous avez deux forces qui se confrontent, sans une possibilité de sortie, c'est l'implosion. L'implosion du système, de cette réalité, et ce sera au profit d'écrasement d'un des adversaires. Ce sera très difficile. Or, la plupart des tribus, ils ont ce goût de pragmatisme aussi. Certains resteront jusqu'au boutiste. Quand on voit un chef de tribu, lui-même qu'il devient un chef djihadiste à ce moment donné, ça peut-être sonnera la fin de sa maison dirigeante à l'intérieur des tribus. Donc, nous sommes sur cette pente, je dirais, un peu dégressive de Daesh, et son expansion s'est stoppée à l'intérieur de l'Irak. On voit qu'il y a certains tribus qui prennent la neutralité. Autour de Fallujah, aujourd'hui, qu'on parle le 31 mai 2016, il y a une bataille absolument importante qui se mène autour de cette ville-là. Il y avait plusieurs tribus. Au départ, ils étaient un peu plus proches de Daesh. Au fil du temps, ils devenaient neutres. Aujourd'hui, ils le prennent par contre. Donc, vous voyez, la tribu aussi a tellement le goût de pragmatisme, ça les amène à se balancer entre neutralité bienveillante, entre, je dirais, prendre parti de l'État. Et de temps en temps, quand on voit l'État absolument reculé et faible, etc., et on peut même retourner contre l'État. Donc, tout reste ouvert, flexible, mais la tribu, c'est une unité pragmatique.